Le service aventure extraordinaire dessiné par un génie absolu présente...
Franquin par Franquin. Proposé par Fred Janin et Nicolas Van Doren.
C'est mal foutu, mais ça donne bien.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'André Franquin.
Oui, oui, oui.
Franquin, dessinateur bruxellois hors pair, et un des plus extraordinaires auteurs de bande dessinée de sa génération.
Bon, en fait.
Reconnu, admiré, souvent copié, jamais égalé. Franquin, après avoir repris au pied levé la série Spirou, chez Dupuis, que JG avait lui-même reprise à Robvel, s'est montré plus créatif et talentueux que ses prédécesseurs. Franquin s'est révélé particulièrement surdoué. Il est le créateur du Marsupilami, Champignac, Zorglub, Zantafio, Sécotine, Modeste et Pompon, Le Petit Noël, Les Idées Noires, Les Tifous et bien d'autres.
Oui, 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 oui.
Mais surtout, Gaston Lagaffe,
bon, enfin.
De loin son personnage préféré. Tous ceux qui ont connu Franquin diront que son talent et son génie n'avaient d'égal que sa modestie. Il n'aimait pas se mettre en avant.
Oh, quelle horreur ici. C'est abominable.
Ou parler de lui.
Je plaide coupable.
Au milieu des années 80, Numa Sadoul, un jeune homme passionné de BD, arrive astucieusement à convaincre Franquin de lui donner une longue, longue, très très longue interview sur sa vie et son œuvre.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries ?
Les entretiens vont durer plusieurs jours et Numa Sadoul en tirera un livre intitulé « Et Franquin créa la gaffe ».
Bon, enfin.
Les enregistrements sur cassette audio de ces conversations n'ont jamais été offerts au grand public. Vous allez pouvoir les entendre pour la première fois.
Je suis extrêmement content,
Numa Sadoul,
qu'on puisse enfin exhumer ce qui était sur ces cassettes et qu'on le livre, en partie, du moins, aux fanatiques, aux amis, aux amoureux, aux admirateurs, aux auditeurs aussi.
On le sait, Franquin a commencé sa carrière en reprenant à JG Spirou et Fantasio, personnages qui ne lui appartenaient pas.
Quelle merde!
Ce qui, selon lui, n'est pas forcément une bonne idée.
J'ai appris par après, avec l'expérience, que tout dessinateur devrait dessiner ses propres personnages. J'étais surtout heureux quand je dessinais les personnages que je créais moi-même, parce qu'ils ils venaient de mon fond à moi, de mes souvenirs de mon enfance, ou de mes, disons, fantasmes. Alors, les personnages qu'on crée, c'est un peu comme de la littérature. Bon, est-ce que vous voyez un romancier s'emparer du personnage d'un autre et le continuer? C'est assez rare. Il y a uniquement des raisons commerciales quand ça se passe, mais je n'en vois pas d'autres. Je crois que chacun doit, s'il veut s'exprimer, mais s'il veut réellement être heureux en créant, eh bien, il doit faire ses propres personnages, quitte à passer plus de temps à les imposer.
Il faut dire qu'en dehors de Spirou, Fantasio et Spip, Franquin a amené une galerie de personnages pour le moins attachants et devenus incontournables.
Tu sais, quand on fait de la bande dessinée, je suppose que quand on écrit des bouquins, il y a des personnages qui s'imposent à vous et que vous reprenez d'instinct parce que vous sentez qu'ils sont des personnages valables. Verdadero marsupilami.
Ça vient d'où le marsupilami?
Marsu comme marsupio, pile comme pilou-pilou. Alors je me suis inspiré, et ami pour être sympa.
Mais sa forme, vous la trouvez facilement?
Oh bon, oui. Non, mais des personnages comme ça... En cherchant un peu du bout du crayon, tu peux en créer plusieurs en une semaine.
Comme les petits mots.
Ils ne sont pas nécessairement, oui, ils sont pas nécessairement de bons personnages, mais enfin bon.
Mais celui-là, tu l'as cherché longtemps?
Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout.
Tu voulais lui donner une forme de singe, comme ça un peu au début?
Non, j'ai surtout jamais pensé à un singe du tout. Ça.
Parce qu'il n'a pas changé. Là. Il est comme ça, là, dès sa première apparition, comme il est maintenant.
Oh non, il a changé. Il était plus sec de forme et ses pieds étaient différents. Ses pattes étaient différentes.
Mais la queue était déjà...
Je le dessine toujours avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs.
Il est déjà très habile avec sa queue, il s'en sert en...
Ah oui, oui, voilà. Et au début, on dit qu'il ne se nourrit que de puces. C'est bien, il a bien changé depuis là.
Mais tu ne pensais pas, quand tu l'as fait, l'utiliser par la suite, quand tu l'as utilisé?
Non, non, la preuve, c'est que dans l'album suivant, il n'y est pas, je crois.
Et pourquoi tu l'as récupéré Si, l'album suivant, c'est Les voleurs du Marsupilami.
Ah oui, oui, oui. Mais il y a un album où il n'est pas.
Pourquoi tu l'as gardé? Il t'a plu ou pas?
Ah oui,
il y a des réactions des lecteurs.
Il devait y avoir aussi des réactions, oui. Bien que tu commences par avoir les réactions autour de toi, les réactions de ta famille, des gens que tu connais, etc. Il y a une espèce de... On a un peu des antennes.
La voix féminine qu'on entend à l'arrière-plan est celle de Liliane Franquin, l'épouse d'André. Elle se souvient avec émotion du jour où le Marsupilami a été créé.
Je ne verrai jamais le jour où il a inventé le Marsupilami.
Ah oui? Mais raconte.
C'était un matin, c'était incroyable. Et chaque fois il inventait un truc, oh, et il ferait ça, oh, et il ferait ça. On était pliés en deux degrés. Et puis alors... Je sais qu'on a rencontré Willy l'après-midi, on était à la Grande Place, une terrasse à la Grande Place. Il a encore ajouté des histoires. Ça a été une fête ce jour-là, c'est extraordinaire, vraiment. Là, chaque fois, il rajoutait des dons et des possibilités au Marsupilami.
Oui, alors c'était clair dès le début que ce n'était pas un personnage qui disparaît.
Oh, ça a marché. C'était passionnant depuis le début.
Merci, ma chérie.
Tu n'aimes pas le nez des Marsupilami?
Non, quel sacrilège.
Alors là, tu devrais avoir honte de dire... Déjà, la page de garde est belle, tu vois.
Oui, hein? Oui, c'est vrai, la page de garde.
La page de garde est très réussie.
C'est beaucoup
mieux que la page de faux titre aussi, d'ailleurs.
C'est quand même belle.
Bon.
J'espère qu'on n'a pas enregistré ça.
Si, et ça sera reproduit intégralement pour sa honte.
Le Marsupilami est né dans Spirou et les héritiers et a eu le destin qu'on connaît. Mais Franquin a aussi créé une galerie de personnages attachants dans « Il y a un sorcier à Champignac ».
Champignac. Les sorciers à Champignac.
Ah, le sorcier à Champignac
Bon, mais ça, c'est important.
C'est la première, c'est la première grande aventure de Spirou, finalement.
C'est la première vraie. C'est la rue de Jeanne d'Arc.
Eh bien, Jeanne d'Arc, c'est... le Jeanne d'Arc, c'est comme Jeanne d'Arc.
C'est vrai, c'est son nom?
Non, ce n'est pas son nom, c'est un pseudonyme. Et c'est le frère de Ginin. C'est Henri Ginin.
Le charmant bébé qu'on entend dans le fond n'est autre que Julie, la petite fille de Franquin, voilà. Née en 1985.
Voilà. Il m'a envoyé un jour, alors que j'étais chez son frère, à Waterloo, qui m'a envoyé un jour un carnet épais comme ça, avec un scénario. Écoute, si j'avais voulu entreprendre ça, j'y serais encore actuellement. J'ai dégagé ce scénario de ce qu'il avait.
Et tu n'as rien demandé, c'est lui qui te l'a envoyé.
C'est lui qui me l'a envoyé, oui.
Mais pourquoi?
Ah, comme ça, pour, parce qu'il avait envie de faire... Non, il avait envie de faire du scénario.
Parce que jusqu'à maintenant, tu as fait des histoires courtes.
Oui.
Il avait envie... fait une seule histoire longue.
Non. Il avait envie de faire du scénario, il m'a proposé ça.
Et
alors, moi j'ai trié, parce que je te jure, c'est un...
Mais toi, ça correspondait à une envie que tu avais de faire une histoire longue?
Ça me satisfaisait.
Tu t'es même pas posé la question, quoi.
Je me suis même pas posé la question, mais cette histoire me plaisait parce qu'elle tombait bien, quoi.
Champignac. Il y a un côté Einstein chez lui, là, dans sa présentation physique, c'est exprès?
Non, ça n'est pas exprès, non. C'est un personnage crayonné comme ça, j'ai dû en dessiner 50 avant de... Je suppose que j'en ai dessiné 50 avant d'arriver à celui-ci. Comme je fais toujours pour créer un nouveau personnage.
Mais son idée des champignons, là, ça reposait sur une documentation?
Je ne crois pas, non. Je crois que c'est une pure fantaisie.
C'est pas faux, c'est vrai qu'avec les champignons, on arrive à un tas de choses.
Oui, mais à l'époque, on ne le savait pas. Je crois que c'est une pure fantaisie qui était assez, assez géniale. Bon,
En fait, moi, je suis le fils d'Henri Gillin. Le souvenir que j'en ai, c'est que mon père était plutôt un fantasque, c'est-à-dire que quand il écrivait un scénario, c'était presque un roman de Zola, quoi. Et en fait, il a eu cet éclair de génie. Mon père était professeur dans une école du secondaire, et il est revenu à la maison. Et comme il était avec Franquin à l'époque, et que Franquin cherchait à essayer de quitter la ville pour retrouver une imagination un peu plus campagne, plus rurale, mon père est revenu à la maison en disant « Je crois que j'ai trouvé, en fait, dans l'école où je suis, il y a une planche avec des champignons. » Et de là est venue l'idée du conte de Champignac et de toute la magie que l'idée champignon a apporté à Champignac et à « Il y a un sorcier à Champignac ». Tout ça est né de ça, en fait, de cette planche dans cette école, quoi, avec les champignons. Moi, je trouvais ça extraordinaire.
Et le nom, là, les prénoms, Paco, Megazip, Adélard, Ladislas, tout ça, c'était dans le texte de...
Ils ne sont pas encore ici dedans.
Si, c'est là.
Ah bon?
Page 44.
Ah, j'ai toujours cru que c'était de grec, moi, ces prénoms. Donc c'est de moi, ça. Ah, c'est comme c'est curieux. Oh, Greg n'a pas touché à ce scénario aussi. Hein.
Et c'était pas déjà dans le texte de Jeanne d'Arc?
Je ne sais pas, je suis incapable de le dire. Je trouve que c'est bien trouvé, en tout cas, Paco Mégésie, Padelaire, Ladislas, ça se dit d'une façon très... Mais il y a une chose qu'il faut dire qui est amusante, intéressante, c'est que le château de Champignac existe réellement, je l'ai visité d'ailleurs des années après.
C'est où, c'est quoi?
C'est un Natois.
C'est en Belgique?
Oui, c'est en Belgique, dans la province de Namur.
Et ce château existait avant ou tu l'as retrouvé après? Enfin, je veux dire, tu t'en es inspiré?
Je m'en suis inspiré.
Ah, oui. C'est toi qui lui as soufflé le château de Natois?
C'est-à-dire que mon beau-père avait des amis dans la région, des amis qu'il avait aidés pendant la guerre, qui étaient fermiers dans ces environs-là. Et...
Vous avez des photos?
Oui.
C'est un peu moins délabré que dans les dessins, quand même. Hein?
Oui, mais chose curieuse, c'était juste après la guerre, quand je suis passé par là, j'avais un appareil photo très simple et très, très minable. Et j'ai vu ce château qui m'a plu tout de suite par ses proportions. Et je me suis avancé audacieusement dans le château, j'ai fait quelques photos.
Gustave, c'était le nom du grand-père de mon père. Et alors, vers la fin de sa vie, je pense que sa femme avait fait un héritage et ils avaient loué un domaine qui est situé à Beighem. Je crois que c'est le Kastelternberg à Beighem. C'est une très belle maison blanche, une grande maison de maître au milieu d'un grand parc. Et je pense que mon père passait pas mal de temps chez ses grands-parents à Beighem, c'était la campagne. Mon père gardait un souvenir très vivace de cette maison. Et un jour, on a été du côté de Beighem, on a retrouvé la maison. Et mon père était vraiment... C'était un bonheur pour lui. On sentait qu'il était, était absolument ravi et il était nostalgique.
Mais
et
oui, quelle émotion.
On l'a senti dans une émotion terrible parce qu'on avait retrouvé cette maison qui était intacte et qui existe toujours. Et ça, c'est vraiment une hypothèse qui est tout à fait personnel, cette espèce de bonheur de Spirou et Fantasio d'être à Champignac et d'être au château de Champignac, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un souvenir, une nostalgie de Beighem dans la manière dont Spirou et Fantasio habitent et vivent à Champignac. C'est une hypothèse.
C'est plausible aussi, vraiment.
Voilà.
Tout ça compte, hein.
Oui,
ça s'emmagasine, même inconsciemment.
Tout à fait, oui.
Et des choses, Champignac en Cambrousse, là, c'est le nom exact de cette. Ça commence comme ça, cette histoire.
Ouais.
Ça t'est venu comme ça?
Non, Champignac, c'est le nom qui a été inventé par le frère de Ginès. Par Jean d'Arc. C'est lui qui a inventé le mot Champignac, venant donc de champignons, parce qu'il voulait que je fasse un truc avec possibilités, la force, les forces mystérieuses des champignons. Moi, j'ai ajouté en Cambrousse, parce que...
C'est plus vrai.
Ça fait campagne. Mmh. Et alors, comme j'allais à cette époque de temps à autre de Bruxelles à Paris en voiture, j'étais tombé amoureux de certaines maisons françaises, et c'était en Thiérache. Je crois que c'est la Thiérache, comme on appelle cette région. J'avais fait quelques photos, assez bien de photos, de ces maisons à toit d'ardoise, parce que pour nous, un toit d'ardoise, on n'en voit que dans notre Ardenne. Hein.
Mais son château, là, il a changé quand même au fil des années. Hein.
Très peu.
Non, il est très compliqué.
Bon, il est dessiné d'une façon plus fouillée. Il a été dessiné d'une façon plus fouillée. Mais...
Tu ne trouves pas que le château de Champignac ressemble à Moulinsart?
Non, je ne trouve pas.
Non?
Pas du tout.
Je suis en train de penser, le maire.
Ah, écoute, s'il y a une chose qui m'amuse à faire, mais qui est difficile, mais qui m'amuse à faire, c'est les discours du maire de Champignac.
Avec la foule.
J'ai compris exactement d'où il venait, parce que j'ai mis longtemps d'ailleurs. Je croyais que c'était basé sur le discours de M. Prudhomme. Hein, je n'ai jamais lu M. Prudhomme, j'ai oublié de qui c'était.
Henri Monnier.
C'est ce sabre le plus beau jour de ma vie. Mm. Et alors surtout, le char de l'État navigue sur un volcan. C'est tout ce que je connaissais, mais je trouvais ça absolument génial. Et c'est là-dessus que je me suis basé pour faire ceci. Je croyais ça. Et je lisais L'Os à moelle quand j'en venais du collège, quand j'étais tout clampin. Et c'était le style Pierre Dac et Francis Blanche.
Et ce truc que j'ai cru inventer pratiquement en partant de très peu, finalement, c'est une réminiscence du style de Los Amoales d'une certaine époque. Mais nom de Dieu, c'est difficile à réussir. Hein.
Toi, tu devais les travailler précisément, ces textes.
Ah, j'aimais bien. Écoute, une épine dans le pied de notre commerce, c'est pas mal. Oh, c'est d'ici que j'ai raté mon coup, parce que... Car il sait qu'agriculture, commerce et tourisme sont les deux mamelles dont il... Attends, qui sème le pain dont il abreuve ses enfants. Et je vous l'ai fait, ce sont les deux mamelles avec lesquelles il pétrit le pain dont il nourrit ses enfants. C'était beaucoup mieux. Et puis je me suis dit, bon, ils vont m'emmerder. J'ai été con, parce que c'est... Les deux mamelles qui pétrissent le pain, c'est adorable.
Mais c'est drôle que, vu la propension naturelle de Greg, tu ne lui aies pas confié la rédaction des discours du maire, justement.
Ah non, ça, j'y tenais trop. Hein.
Comme on vient de l'observer, les souvenirs d'enfance influencent l'inspiration, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Pour la création de certains personnages secondaires, l'influence vient parfois de rencontres. Ici, Zorglub et Zantafio, qui marquent la collaboration de Franquin avec Greg.
Allez, Z comme Zorglub.
Z comme Zorglub. Le titre de Greg, comme une bonne partie du scénario d'ailleurs. Je crois que c'est encore une de ces séries que j'ai commencé seul et j'ai appelé Greg au secours, si je me souviens bien. Les histoires faites avec Greg, il y a un tel mélange et une telle confusion que je ne sais même plus quelles idées sont à Greg et quelles idées étaient à moi.
Et en général, que là aussi, l'idée de départ est de toi ?
Souvent, oui. Je crois que tout le départ est de moi avec les gants, parce que les gants qui conduisent la voiture.
Comment ça, les gants qui conduisent la
voiture ? Oui, l'idée forte de départ, au faire démarrer l'histoire, c'était Fantasio conduit qui est embarqué de force pratiquement dans une voiture qui est conduite par personne. Il n'y a qu'une paire de gants sur le volant et ça fait très homme invisible.
Oui.
Et ça vient de mon habitude de déposer mes gants sur le volant quand je quitte ma voiture.
Je dois dire que ce n'est pas une caricature, Zorglub, mais il ressemble à un gars que j'ai rencontré et qui joue un rôle dans la commercialisation au magasin de la Bourse avec lequel j'avais été mis en rapport. Et c'est un personnage qui faisait rire énormément. Il était fort bavard, il avait un accent assez, assez puissant. Et il était un peu coiffé comme Zorglub, c'est-à-dire c'était pas encore un vieux beau, il n'était pas très âgé, mais tout de même. Et on sentait qu'il se soignait sa chevelure noire qui bouclait derrière. Et quand j'ai fait Zorglub, j'ai un peu pensé à ça. On ne peut pas dire que ce soit une caricature personnelle, hein. Mais ce gars soignait son apparence physique manifestement avec... Il voulait plaire aux filles, je suppose. Il était vraiment étrange.
Mais le cousin Zantafio, c'est le contraire de Fantasio, donc.
Oui, 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 oui.
Hein?
Oui, c'était un cousin malveillant et...
Et tu as essayé de lui faire un physique qui soit le...
Ah oui, oui,
qui
oui.
Ressemble,
il ressemble l'inverse. Beaucoup, il ressemble beaucoup. Hein.
Il est aussi brun que l'autre est blond.
Oui, mais la forme de la figure est la même. Ça ressemble à ce que Greg a été à une certaine époque.
Oui, c'est vrai.
Et là, j'ai pensé un peu aux expressions de... Ça convient très bien aux expressions de Greg, je trouve ceci. Quand on pense que le texte est du Greg, et quand on le décide avec Zantafio, ça fait un peu Greg.
Survolons rapidement d'autres personnages secondaires mais récurrents. Ses cotines, du pilon, mais aussi une foule entière. Et puis terminons pour les fans d'automobile avec les échanges entre Numa Sadoul et Franquin à propos de la turbotraction.
Oui, c'est Cotine, qui vient d'être engagé au moustique.
Oui.
Tu n'avais pas non plus, je pense, l'intention d'en faire un personnage important à ce moment-là.
Non, pas du tout, non.
Comment ça se fait qu'elle soit restée? Parce qu'elle était absolument odieuse et invivable.
Elle était odieuse?
C'est Cotine?
Oui.
Oui.
Elle était plutôt intelligente, je trouve.
Ah, moi, je le trouvais parfaitement désagréable.
Ah bon ?
Ah oui.
Tu t'identifies au personnage.
Parfaitement désagréable et insupportable.
Que du pilon, ça aurait pu être un personnage... C'est un personnage important dans l'histoire, dans toute la série.
Dans certaines séries.
Oui.
Il a vu des choses, personne ne le croit, parce que personne ne croit l'ivrogne en question.
Et il a vu parfois des choses importantes et il le dit et personne ne l'écoute. C'est évident.
Mais il fait quoi dans la vie? Tu le sais, toi, ce qu'il fait? Parce qu'il est toujours élégamment
habillé. Dupillon, il est pharmacien.
Il est pharmacien?
Ouais.
Ah bon? Mais il exerce?
Je ne sais pas, je suppose. Ça se dit quelque part, d'ailleurs. Le pharmacien Dupillon. Dans un mini-récit, je crois. Ou dans une histoire de Noël, quelquefois.
Oui, parce que ce n'est pas un pochard ordinaire. Il est toujours élégamment habillé. Oui,
oui, oui. Toujours de la même façon, d'ailleurs. Ouais.
J'avais... C'est dans quelle histoire? C'est le dinosaure. Le voyageur du Mésozoïque. J'avais eu une idée loufoque et prétentieuse de prendre un jour une foule comme héros. Et je l'ai fait un petit peu, j'en ai fait dans quelques cases, mais j'ai failli devenir fou. Dans le voyageur du Mésozoïque, c'est toute la ville qui se sauve et qui s'arrête en paquet quand le dinosaure apparaît, etc. Mais ça peut être amusant à faire, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis, il faut avoir un don de dessiner pour dessiner des foules, il faut avoir le don de le faire clairement. Je ne l'ai pas. Je me perds dans les détails.
Alors là, c'est l'arrivée de la turbotraction qui a marqué des générations et des générations de potages dans mon genre.
Ah bon?
Ils se sont essayés à recopier la turbotraction, à faire des dessins dérivés de la turbotraction. Pendant les heures de cours, on n'a pas arrêté.
Ah bon?
Je t'assure que ça nous a vraiment impressionné. Toute ma génération est impressionnée par la turbotraction.
Ben, la turbotraction, c'était une voiture sérieusement conçue. Hein. C'est basé sur les projets les plus audacieux de l'époque. C'est basé sur le moteur à turbine de l'ingénieur Grégoire. Et sur les principes de l'ingénieur Grégoire, qui était un type important dans la traction avant. C'était une traction avant avec le poids en avant des roues avant.
Et alors cette nouvelle turbo, là, on a réalisé les plans. Elle est aussi aboutie que la précédente.
Elle était quoi?
Pas embouti, abouti.
Embouti. C'est-à-dire que il y avait un élément perturbateur dans cette histoire, c'est qu'on avait fait un concours et ils devaient envoyer leur idée de la turbotraction. On a reçu, je crois que c'est dans les 13 000 réponses. Je me souviens d'avoir été photographié on avait vidé entièrement un bureau pour épingler par toutes les réponses. Il y en avait des milliers.
Qu'il devait dessiner?
Oui, il dessinait, il se donnait des suggestions et il devait dessiner que devait être la future turbotraction.
Et à quelle occasion c'était fait? Au cours de cette histoire-là? Non.
Ah non, c'était déjà entrepris, évidemment, hein, parce que quand j'ai dessiné l'histoire, c'était déjà prêt.
Ah oui, ça
a suivi. Et alors, j'ai dû tenir, les goûts des lecteurs étaient assez extravagants pour des voitures totalement héroïques, avec des ailerons, quelque chose d'incroyable. Alors j'ai essayé d'en faire, j'ai fait ceci.
Et tu as fait quoi, une synthèse de ce qu'on te proposait, là?
Oui, j'ai vu plutôt les grandes tendances du goût... Mais je voulais faire une voiture qui soit tout de même pas conne.
Elle ne fait pas oublier la précédente qui avait
la précédente est mieux, moi je trouve. La précédente est mieux parce qu'elle était plus
personnalisée, plus
étudiée, plus aérodynamique. Hein. Ceci était c'était beaucoup plus étudié. On en avait fait j'en avais fait un modèle en terre.
Tu l'avais fait toi-même?
J'avais fait moi-même.
Et tu dis que tu n'es pas bricoleur, tu n'es pas à droite de tes mains.
Je ne peux pas être bricoleur.
Oh bah excuse-moi alors.
Pour faire un modèle, une espèce de savonnette en terre pour voir les lignes, c'était j'avais même pas mis de roue.
Tu aurais pu le faire en savon, ça aurait été plus. Avec un peu d'eau, tu modelais
ton... Le turbo-savon.
Et si on terminait dans la joie et la bonne humeur? En 1978, Yvan Delporte a fait chanter André Franquin, son épouse Liliane, ainsi que Eddie Pape, pour les 50 ans de Peyo, une rareté très 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 rare que je me fais un plaisir de partager avec vous, mes enfants.
Y'a vraiment pas à s'en faire, quand on est quinquagénaire, on a le temps, pendant 50 ans, ouais.
Le jour de ton anniversaire, si tu deviens quinquagénaire, vas-y, c'est reparti, oui.
En voyant tes tempes grises, ton air comme il faut, les nanas diront conquise, mon Dieu il est beau.
Ah, on a l'âge de ses artères, et pour les quinquagénaires, le pied, ça va démarrer,
yeah, yeah.
Y'a vraiment pas à s'en faire. épingle.
Mais c'était de la crotte de bique.
Et place au jeune, car on a l'air de ses artères. Et pour les quinquagénaires, le pied, ça va.
Est-ce qu'on peut s'amuser avec des conneries? Oh, quelle horreur ici! C'est abominable!
Scrooge.
De gauche. Garantie pure schlick.
Bon fait.
Merde. Oh, quelle horreur ici. Voilà. Maintenant, je vais nourrir mon chat. Je trouve que ceci est relativement réussi tout de même avec les moyens du bord, mais c'est relativement réussi parce que... Je plaide coupable. On peut s'amuser avec des conneries.